Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, on découvre les secrets de la nature sur RTL. Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux.
Bonjour.
Soyez bienvenus.
Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver en 2018 après vous avoir eu dans l'émission en 2017.
Vous avez peu changé. Hein.
Bah non, ça va, pas pris une ride, hein, c'est trop bien. Vous êtes auteur scientifique, réalisateur de documentaires sur les animaux. Avec vous, on va observer les bêtes associées. Les bêtes associées, c'est quoi ?
C'est les bêtes qui ont besoin les unes des autres, qui vivent en association avec une autre espèce. Il y a beaucoup de couples comme ça qu'on peut observer dans la nature, de bêtes qui ont besoin les unes des autres.
Elles ont monté une société, c'est ça, on peut le dire ? Elles ont des bénéfices communs ?
Elles ont des bénéfices communs. Si elles ne sont pas ensemble, elles dépérissent, voire meurent rapidement.
Et on les trouve partout, dans les airs, sur terre, sous les flots, il y en a un peu partout. Il y en a pour qui ça se passe mal, elles sont associées pour le meilleur et pour le pire aussi, c'est ça ?
Ah ben pour le pire, mais là on a plein d'exemples.
Donnez-nous-en un, tiens.
Le pou.
Mais lui, il s'associe avec nous.
À nous, parce qu'il ne parasite personne d'autre.
Oui. Oui, dès qu'on peut l'étouffer.
Nous, on n'en a pas besoin.
Il nous sert à rien.
Mais lui a besoin de nous.
Il est très content de nous avoir.
Et cet après-midi sur RTL, on a décidé de parler des animaux qui s'entraident.
Oui, c'est l'esprit de Noël qui continue.
Exactement. Par exemple, la vache et le géotrupe. Mais c'est quoi un géotrupe ?
Le géotrope est assez courant en montagne. On peut l'observer sur les prairies pâturées en été, se nourrissant sur les crottes fraîches.
Nemo ! RTL.
Oh non, ne bouge plus, tu n'arriveras jamais à sortir de là tout seul, laisse-moi faire.
La curiosité est un vilain défaut.
Par son action de brassage, le géotrope incorpore l'azote des crottes au sol et favorise la dispersion des bactéries et des spores des champignons.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La nature, ce n'est pas forcément une lutte à mort entre les espèces pour survivre. Certaines s'entraident et coopèrent. C'est ce que l'on découvre sur RTL avec notre invité Jean-Baptiste de Panafieux. Première coopération, celle de la vache et du géotrupe. Parce que dans la mise en onde, on parlait de géotrope, c'est plutôt un géotrupe, c'est ça ?
Oui, le géotrupe,
c'est quoi ?
Celui qui creuse la terre, le géotrupe.
Ah, c'est ce que ça veut dire ?
Oui, c'est ce que ça veut dire.
Ouais. Alors, ça ressemble à quoi ? Décrivez-le-nous.
Ah, c'est un bousier, tout simplement. C'est une sorte de scarabée noir avec des reflets assez jolis, très élégant. Avec une forme un peu ramassée.
Brillant.
Brillant, ouais. Voilà. Sauf quand il est couvert de bouse, parce que son.
Ça lui arrive souvent.
Son activité est quand même de creuser la terre sous les bouses. C'est un animal qui joue un rôle absolument essentiel et qui aide les vaches d'une certaine façon.
La vache, elle produit beaucoup de bouse, beaucoup d'habitat pour le scarabée, le bousier.
Bah une vache normale produit 10 à 12 bouses par jour, c'est-à-dire qu'elle couvre plus d'un mètre carré. Et de sol, et les vaches n'aiment pas du tout brouter à côté des bouses.
Ah ouais. C'est un bel espace de vie qui sert pour ces géotrupes et ce petit scarabée noir et brillant de nurserie. Comment ça ?
Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va creuser la terre et mettre de la bouse sous terre. Donc, il brasse la terre et la bouse, et la bouse va servir de nourriture pour ses larves. En fait, la femelle géotrupe va pondre ses œufs dans la bouse sous terre et les larves vont commencer à se nourrir de la bouse sèche, puis se métamorphoser, redonner des adultes, etc. Il y a un cycle qui se fait, mais l'essentiel, c'est que le géotrupe incorpore la bouse au sol.
Donc la vache est très utile au géotrupe, mais est-ce que l'inverse est vrai ? Qu'est-ce que le géotrupe apporte à la vache ?
Ben, il apporte à la vache de lui nettoyer sa prairie. Sans le géotrupe et les autres insectes, parce qu'il y a plein d'autres insectes qui jouent ce rôle-là, la vache se retrouverait avec des mètres de bouse accumulés. Ça va très vite. Hein. Si elle fait un mètre carré de bouse par jour, vous imaginez au bout d'un an ce qui se passe ?
Ben oui, effectivement, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que vous racontez dans votre livre « Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire » aux éditions Gulfstream, qui décrit bien ça. Ça se passe en Australie. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des colons européens qui débarquent avec leurs vaches ?
Ben, ils arrivent avec leurs vaches, avec leurs moutons, et au bout de quelques dizaines d'années, quelques siècles même, on se retrouve avec des millions de vaches et de moutons.
Oui.
Et là, ben, les prairies se couvrent de bouse, il n'y a pas un insecte capable de transformer ses bouses.
Parce que le géotrupe australien n'est pas adapté, c'est ça ?
Il est adapté aux petites crottes des kangourous, et c'est pas les mêmes géotrupes,
et donc il va
rien faire avec les bouses de vaches.
Il va faire une petite formation, il va se recycler ou pas du tout ?
Aucun recyclage possible pour les géotrupes. Il a fallu aller chercher des géotrupes en Afrique du Sud, à Hawaï, dans plein de pays.
C'est drôle.
Il y a eu plein d'essais qui ont été faits dans les années 60 à 80 de notre siècle, hein, c'est récent.
Ouais.
Et on a amené tous ces insectes en Australie, et là, ils ont pu profiter des quantités de bouse incroyables qui leur étaient offertes.
C'était le festin du boudier.
Jean-Baptiste de Panafieux, on va enfiler nos combinaisons de plongée maintenant pour aller observer les poissons clowns. Vous savez, c'est ce petit poisson multicolore du film Nemo. Et Nemo vit dans une anémone. Vous nous rappelez les caractéristiques d'une anémone ?
Alors, ce petit poisson vit dans une anémone. C'est une très, très grosse anémone. Et dans chaque anémone, il y a souvent un couple de poissons clowns.
C'est quoi l'anémone ? Pardon, mais c'est un animal ou une plante ? Moi, je pose vraiment les questions les plus basiques.
Ah non, c'est une très bonne question, ouais, parce qu'effectivement, je dis anémone, mais c'est anémone de mer. Il y en a plein au bord de la mer, en Bretagne, tout autant en Méditerranée. Ce sont ces animaux qui ressemblent à une espèce de petite masse informe et avec plein de tentacules.
Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules ? Il y a du poison ? Il y a du venin ?
Alors, ces tentacules sont venimeux sur toute leur surface. Il y a des toutes petites flèches empoisonnées qui peuvent être projetées par l'anémone. Et ça peut être désagréable. Alors, si on touche une anémone de nos pays, en général, on peut sentir un petit picotement, mais pas grand-chose. D'autres anémones sont très désagréables.
Donc, le poisson clown qui vit en couple trouve un habitat confortable, c'est ça, chez l'anémone ?
Alors, le jeune poisson clown s'habitue aux tentacules de l'anémone. Le mucus qui couvre ses écailles s'adapte au poison de l'anémone et il peut y vivre.
Et l'inverse, alors, qu'est-ce que
qu'est-ce
les
que
poissons
apporte,
clowns apportent à l'anémone ?
Ah ben, déjà, lui, il y trouve un abri, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons qui vont venir le chercher à l'intérieur de l'anémone. Et lui, protège l'anémone contre les quelques poissons qui seraient capables de croquer les tentacules de cet anémone.
En attaquant les prédateurs ?
Oui, il a l'air gentil comme tout, mais c'est un petit prédateur à sa mesure.
Il
attaque les poissons papillons qui viennent manger les tentacules de l'anémone.
Allez, toujours sous l'eau, on vous présente le dentiste des mers ou la dentiste, la crevette nettoyeuse. Mais quel est le poisson effrayant qui profite de ses services ? Réponse dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
La curiosité de découvrir les animaux associés, ces bêtes qui s'entraident et entretiennent d'excellentes relations. Et c'est le réalisateur Jean-Baptiste de Panafieux qui nous sert de guide. Tiens, voici la crevette nettoyeuse qui s'avance.
Bonjour madame.
Bonjour madame, ou mademoiselle. Avec qui s'est-elle ? Ah non, dis plus mademoiselle. Avec qui s'est-elle associée, cette crevette nettoyeuse ?
Elle s'associe avec des gros poissons et par exemple avec une murène, qui n'est pas le poisson le plus sympathique qu'on peut imaginer.
Ça ressemble à quoi ? La murène ressemble un peu à
une anguille, c'est assez long, c'est allongé, mais avec une mâchoire qui, pour nous, donne l'impression d'un poisson dangereux et désagréable.
Alors qu'elle est gentille ?
C'est notre vision du monde. Ouais. Hein.
Elle est gentille, cette murène ?
Gentille, pas gentille, elle se nourrit de poissons.
Oui, c'est tout, on ne demande pas.
Enfin, dans mon souvenir, elle a beaucoup de dents quand même.
Elle a beaucoup de dents.
Donc c'est un peu impressionnant.
Si on met la main dans son trou, elle mord. Mais enfin, si on fait ça avec un chat, il fait pareil.
La murène qui adore les crustacés, sauf les crevettes nettoyeuses, parce qu'elle y voit son intérêt ?
Alors, la murène accepte la présence de la crevette nettoyeuse, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir la gueule quand elle sent le toucher des antennes de la crevette.
C'est génial.
Elle va ouvrir la gueule et la crevette va entrer à l'intérieur de la gueule de la murène et nettoyer les dents et la bouche, l'intérieur de la bouche de la murène, en mangeant tous les petits débris qui sont logés entre les dents.
C'est génial comme association.
Mais oui, ça arrive jamais qu'une murène oublie que ça va lui faire du bien et que se dit tiens, j'ai une crevette à manger, j'en profite. Parce que c'est très étonnant ce que vous décrivez.
Alors ça, c'est une vraie association mutualiste, c'est-à-dire que les deux en profitent. La crevette se nourrit et le poisson est nettoyé. Mais dans certains cas, il y a des petits poissons nettoyeurs. C'est pas comme les crevettes, mais ils ont les mêmes rayures que les crevettes.
Ouais.
Et certains d'entre eux sont en fait des parasites, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire aux poissons que ce sont des nettoyeurs, mais vont en fait leur manger des petits bouts de peau et être tout à fait désagréables avec eux. Simplement, ils ont pris la tenue du poisson nettoyeur.
Ça, des malhonnêtes, il y en a partout.
Ça, on en trouve même dans la nature. Vous publiez, vous racontez cette histoire dans ce livre, Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire. Et justement, alors j'imagine que ce sont les mêmes petits poissons, on y découvre des stations de nettoyage en quelque sorte.
Il y a des stations de nettoyage, c'est-à-dire que les poissons font la queue pour pouvoir se faire nettoyer.
Sans jetons.
D'accord.
Qu'on soit bien clair.
Mais vraiment, on voit sous l'eau plusieurs poissons
qui attendent.
C'est génial.
Toujours sous l'eau, on découvre maintenant les liens entre Bernard l'ermite et anémone. Très joli couple.
Bonjour.
Vous nous rappelez la principale caractéristique du Bernard l'ermite ?
Alors, le Bernard l'ermite, c'est un petit crabe un peu particulier qui a un abdomen tout mou et il protège son abdomen mou dans une coquille d'escargot marin.
Mais jamais la même.
Alors, il en change quand il grandit. En général, dans nos régions, il va prendre des coquilles de bigorneaux, de bulots, etc.
Donc c'est un squatteur, en quelque
Alors,
sorte.
C'est pas un squatteur, parce qu'il ne chasse pas les mollusques, il ne les tue pas, il prend des coquilles vides.
D'accord, il prend des coquilles vides, et comment l'anémone le suit ? Est-ce qu'elle le suit de coquille en coquille ? Vous voyez ce que je veux dire ? De coquille Alors, en coquille.
Quand il grandit, il doit changer de coquille, ouais. Et effectivement, il attend que l'anémone se déplace. L'anémone peut se déplacer très très lentement, mais le Bernard l'ermite va l'attendre parce qu'il profite de la présence de l'anémone lui aussi.
Comment alors ?
Bah, l'anémone est un peu dangereuse pour beaucoup de poissons.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le poisson clown.
Même si ce sont de plus petites anémones, elles sont désagréables pour les poissons, donc il est protégé. Et l'anémone va profiter des restes des repas du Bernard l'ermite qui, quand il mange un bout de poisson mort ou quelque chose comme ça, il y a plein de petits débris qui vont s'éparpiller dans l'eau et l'anémone va en profiter pour les manger aussi.
Jean-Baptiste de Panafieux, est-ce qu'il y a aussi des profiteurs dans la nature, c'est-à-dire ces animaux qui affaiblissent leur hôte sans jamais les tuer ?
Alors, il y en a qui qui gênent leur hôte, qui vont en profiter, mais sans le tuer. Ça, c'est les parasites.
Oui.
C'est le pou dont je parlais tout à l'heure. Hein, oui. Ils profitent de nous, mais ils ne nous tuent pas.
Mais le coucou, par exemple, le coucou, on est un peu dans cette... là, on n'est pas chez les oiseaux, on est un peu dans cette mécanique-là. Qu'est-ce qui fait le coucou ?
Alors, le coucou, c'est un peu différent, c'est un parasitisme de couvée. C'est-à-dire que le coucou ponce, la femelle coucou ponce son œuf dans le nid d'un petit oiseau. Elle en retire un pour que le petit oiseau ne se rende compte de rien, parce qu'il risque d'avoir appris un peu à compter et d'être capable de repérer.
Comment ça, elle tire un enfant, un bébé ?
Elle jette un des œufs par-dessus bord.
Oui. Oh là là !
Le petit coucou naît, il se débarrasse des autres œufs à ce moment-là, ou des autres petits s'ils sont déjà sortis. Et pour les parents qui avaient fait le nid, tout ce qui est dans le nid est un petit, automatiquement. Ouais. Et donc, est leur petit. Si c'est dans le nid, c'est leur petit et elles le nourrissent.
Donc le coucou est élevé par d'autres parents finalement.
Et donc, c'est d'autres parents qui vont nourrir le coucou. Les parents coucou ne nourrissent jamais leur petit.
Pourquoi ils n'apprennent pas à faire des nids, ces gens-là ?
Bah, c'est avantageux, on n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour ça.
Est-ce que ça peut arriver que les petits oiseaux qui sont comme ça, alors pour le coup je reprends le terme, squattés par dont le nid est squatté par les coucous, se rendent compte qu'il y a un œuf qui n'est pas leur et l'expulse ?
Alors ils apprennent à se rendre compte. Si le coucou pond un œuf qui ne ressemble pas à leurs œufs, oui. Au bout d'un certain temps, il y a une adaptation et ils finissent par rejeter tous les œufs qui ne ressemblent pas aux leurs. Mais les coucous s'adaptent à ça aussi, ça c'est l'évolution, ça change petit à petit, et les coucous finissent par pondre des œufs qui ressemblent à ceux de leur hôte.
Vous avez déjà forcément trouvé dans un plat de moules frites de tout petits crabes, vous les mangez vous ? Moi je les mange. Mais comment font-ils pour entrer dans la coquille ? Réponse juste après la pause.
RTL.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons ?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mais j'aurais grand besoin d'un abri pour la nuit. Je ne peux pas dormir dans un terrier comme vous.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans un arbre comme vous le faites.
Alors on ne pouvait pas échapper à Blanche-Neige et aux Inconnus qui parodient Chantal Goya. La nature est bien faite. On vérifie la justesse de cette maxime avec notre invité, le réalisateur de documentaire Jean-Baptiste de Panafieux. Alors depuis tout à l'heure, vous nous faites découvrir les animaux associés, ceux qui travaillent ensemble, s'entraident mutuellement. Évidemment, on va parler maintenant de ceux dont l'activité profite à tous, à tout l'écosystème. Par exemple, le nécrophore. C'est quoi un nécrophore ?
Alors, nécrophore, c'est un insecte, ça ressemble un peu à un scarabée, mais enfin, on trouve plus de scarabée, donc personne ne sait à quoi ressemble un scarabée. Un gros insecte noir et orange, qu'on va trouver sur les animaux morts au bord des chemins.
D'accord, donc imaginons, il trouve une petite souris, une musaraigne, qu'est-ce qu'il fait quand il trouve le cadavre ?
Alors lui, il ne va pas manger la musaraigne, il va l'enterrer. Son travail, ça va être d'enterrer la musaraigne pour offrir une espèce de buffet à ses propres petits. Un buffet qui ne servira qu'à ses propres petits, puisqu'il est justement caché sous la terre.
Est-ce qu'il prépare le corps, si j'ose dire, comme un médecin légiste, quoi, vous voyez ce que je veux dire, ou comme un thanatopracteur ?
Oui, il crache une sorte de liquide qui va empêcher la décomposition rapide du corps. Comme ça, ses petits auront de la nourriture pendant un certain temps. Et En fait, il ralentit la décomposition du corps, mais comme il l'offre à manger à ses propres larves, il va aussi jouer un rôle dans la décomposition, un peu comme les géotrupes tout à l'heure. Il va jouer un rôle important, essentiel, dans le recyclage de la matière vivante dans les écosystèmes.
Ils sont nombreux, ces mangeurs de déchets dans la nature ?
Il y en a des quantités et des quantités. Ce qu'on appelle les détritivores, les mangeurs de détritus, c'est extrêmement important. Il y en a des milliers et des milliers d'espèces.
Et alors, dans votre livre « Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire » aux éditions Gulfstream, vous dites que ces nécrophores, là, ces petits insectes, ces petits scarabées, ils sont capables de se battre pour leur cadavre, pour leur charogne. Pourquoi ? C'est-à-dire, ils veulent pas qu'il y en ait d'autres qui viennent manger sans avoir travaillé, c'est ça un peu ?
Oui, bizarrement, ces insectes-là s'occupent beaucoup de leurs petits.
Ouais.
Ils vont même leur régurgiter de la nourriture qu'ils ont avalée pour faciliter la digestion de leurs petits. Et puis, ils vont les protéger contre les autres qui voudraient pondre aussi dans le même cadavre. Et donc, ils vont se battre pour garder le cadavre qu'ils ont offert à leurs petits.
Jean-Baptiste de Panafio, on a des questions aussi sur ces petits crabes qu'on trouve parfois dans notre plat de moules frites. Comment ces petits crabes sont entrés dans la coquille, dans la moule ? À quelle étape de vie de cette moule ?
Ils entrent quand ils sont tout petits. C'est des très petits crabes. Hein. On l'appelle le crabe pois parce qu'il a à peu près la taille d'un petit pois. Et quand ils sont jeunes, ils sont encore plus petits. Ils rentrent très facilement dans les moules qui ont...
Et des moules adultes ou des bébés moules ?
Non, des moules adultes. Alors, ils s'installent, soit souvent un couple,
ah oui,
parfois à trois. Et
qu'est-ce qu'ils font ?
La maison est confortable.
Et ils vivent là. Alors, pendant très longtemps, on a pensé que c'était des commensaux, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'intérieur ou avec d'autres sans les gêner. Puis on s'est rendu compte que leur activité est quand même un peu gênante. Ils mangent le mucus de la moule, c'est une espèce de liquide gluant dont elle enrobe sa propre nourriture.
Donc ça la prive un petit peu la moule.
Et ça la prive un peu, puis ils se déplacent à l'intérieur, donc ils abîment un peu les branchies de la moule. Bon, c'est pas extraordinairement
favorable.
Est-ce qu'on sait
si la moule essaye de se débarrasser de ses petits crabes en bâillant de temps en temps,
technique de moule,
en bougeant,
elle ne peut pas. Mais c'est très difficile d'observer. Pendant très longtemps, on a cru que ces petits crabes étaient des amis de la moule, qu'ils montaient à imaginer que ils profitaient de l'entrée d'autres animaux dans la moule. À ce moment-là, ils la pinçaient, la moule se refermait et les deux pouvaient se nourrir du poisson
drôle.
Qui était rentré.
C'est drôle.
On imaginait tout, ça a servi de modèle pour l'amitié, pour les prédateurs, pour maintenant des parasites. On parle beaucoup.
Quel succès, ce petit crabe-pois.
Un autre parasite, un petit dernier, plus difficile à voir, le varroa. C'est quoi un varroa ?
Alors le varroa, ça c'est un vrai parasite qui affaiblit beaucoup les abeilles. Il vit sur les abeilles, enfin la femelle vit sur les abeilles, et le mâle vit, il est plus petit, il vit à l'intérieur de la ruche.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il trouve le moyen de pomper une partie de la nourriture. J'ai du mal à imaginer
c'est comme une espèce de moustique permanent, c'est-à-dire qu'il enfonce sa trompe et il pompe le liquide interne de l'abeille.
Et il l'affaiblit.
Mais... Bon, peut-être que là aussi, les abeilles ont été affaiblies par les pesticides et sont plus soumises actuellement au varroa qu'elles ne l'étaient avant.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Panafio. Votre livre « Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire » est publié chez l'éditeur Gulfstream, livre destiné au jeune public avec des illustrations signées Annelise Combon et Mathieu Rottler. Merci.